La vie après la mort. Donc ça, c'est un sujet extraordinaire. C'est un sujet extraordinaire. De quoi ne va-t-on pas parler ? On ne va pas parler de ce que veut dire la mort. Parce que c'est un sujet. Quand est-ce qu'il y a mort ? Est-ce que la question de mort cérébrale, ça, on n'en parlera pas. Parce que je n'ai pas la compétence et ce n'est pas le sujet. C'est une fois la personne enterrée, on suppose morte, je lui souhaite en tout cas, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que dit notre foi catholique sur la vie après la mort ? Premièrement, comme son nom l'indique, il y a une vie. Et ça, c'est ça. Soyez bien conscients que, au fond, notre manière de voir le monde, notre manière de voir la réalité, fait que on se dit, on n'est pas seulement un amas de cellules qui se décomposeront ensuite avec la mort. Non, il y a un au-delà de nous-mêmes. Il y a un au-delà de nous-mêmes. Il y a un au-delà qui fait que le Seigneur nous attend. Et vous avez deux grandes manière de concevoir la personne humaine. Une manière qu'on appelle matérialiste, c'est-à-dire que la vie est faite uniquement de dimensions biologiques, et quand la matière se décompose, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et une dimension spirituelle, spiritualiste, qui dit qu'il y a quelque chose qui transcende la matière. Quelque chose qui transcende la matière. Donc, c'est intéressant de voir que la question de l'âme éternelle, était déjà chez les philosophes grecs, c'était les païens. L'âme éternelle devrait prouver cette prééminence de l'âme au-delà même de la vie biologique. Et ça va engendrer des choses, mine de rien, très différentes. Vous avez une vision matérialiste, vous avez une vision spiritualiste, on pourrait dire comme ça, même si c'est pas vrai, en tout cas, qui transcende la matière. Par exemple, quand vous allez, si un jour vous devenez parent, eh bien, pour celui qui croit en la vie éternelle, il met un enfant au monde pour la vie éternelle. Il le met pas au monde pour la fausse. Et ça, je pense que c'est quand même une très grande. Et puis de dire aussi, de prendre conscience que l'existence de notre âme, puisque c'est notre âme qui existe après la vie éternelle, l'existence de notre âme fait que nous croyons que ce que nous vivons ici retentit dans l'éternité. Ça retentit dans l'éternité. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que j'ai pris un certain nombre d'articles du catéchisme de l'Église catholique. Vous retrouverez ça aussi. Mais ce qui veut dire que loin d'affadir l'implication sur cette terre, l'existence de la vie éternelle nous motive. Je vous lis le numéro 1049 du catéchisme. Mais l'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y a grandi, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. C'est pourquoi il faut soigneusement distinguer les progrès terrestres de la croissance du règne du Christ. Ce progrès a cependant beaucoup d'importance. Et ça, c'est aussi important de dire, ça ne nous désengage pas du quotidien. On voit dans les épîtres de saint Paul, par exemple, au tout début du christianisme, les personnes étaient absolument convaincues que le Christ allait revenir là tout de suite maintenant. Et donc se mettaient à arrêter de travailler. Et vous connaissez cette phrase de saint Paul, celui qui ne mange pas, qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Parce qu'ils étaient, non, attendez, en règle, le Christ revient. Le Christ revient. Et pour juger les vivants et les morts, ce qui veut dire que le Christ revient pour plénifier tout le monde, c'est la fin du monde. C'est aussi lié à la vie éternelle. Nous croyons que ce monde a eu un début, nous croyons qu'il y aura une fin, telle qu'il existe actuellement. Il y aura une fin. Il y aura une fin du monde dont on ne sait pas la date. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la Terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transfiguration du cosmos. Quand le Christ viendra juger les vivants et les morts, ce monde-là sera transfiguré. Vous savez que dimanche, c'est la fête de la transfiguration, dans le deuxième dimanche du carême. Donc, il y a une transfiguration de ce monde. Vous voyez, j'étudie beaucoup le judaïsme, et je me passionne beaucoup pour cette religion que je trouve passionnante, mais c'est complètement différent. C'est complètement différent. Dans le judaïsme, le Messie vient apporter une plénitude sur terre. C'est-à-dire que le Messie vient apporter la paix, la prospérité, la Concorde, et c'est sur Terre, telle qu'est la Terre maintenant. Et on comprend bien qu'il y a eu un gap entre la manière dont le judaïsme conçoit le Messie et l'annonce que le Christ a fait de son règne messianique. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui veut dire aussi quelque chose, ce qui veut dire qu'il faut renoncer au paradis terrestre. Ce qui n'est quand même pas si simple. Renoncer au paradis terrestre, c'est-à-dire croire qu'il y aura un monde de parfaite communion, ici-bas, entre les personnes humaines. Croire que le mal, ici-bas, sera vaincu à jamais. Croire que, ici-bas, il n'y aura plus de violence, de larmes, de deuil. Non, nous ne croyons pas ça. Renoncer au paradis terrestre. Cette terre, telle qu'elle est actuellement, elle est marquée par la vulnérabilité, elle est marquée par la souffrance. Mais nous croyons, au contraire, que nous allons être illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra au Père le royaume et tout le cosmos. C'est là où il y a une transfiguration de ce monde. Et c'est intéressant de voir que même la création, c'est étonnant, parce que vous connaissez ce passage-là, je suppose, hein, le cosmos lui-même attend une profonde communauté de destin du monde matériel. Et ce salut de l'homme, le cosmos aussi l'attend. Hein, vous rappelez cette parole, hein, car la création, hein, c'est Romains 8, car la création attend, aspire à la révélation des fils de Dieu, avec l'espérance d'être elle-même aussi libérée de la servitude de la corruption. Parce que, en fait, on comprend ça quand on comprend l'impact du péché originel. L'impact du péché originel qui a désolidarisé l'homme d'avec Dieu, l'homme et la femme, entre eux, l'homme à l'intérieur comme un corps, un esprit aussi s'est scindé, l'homme avec Dieu et la création elle-même dans son lien avec le Seigneur. Il y a une sorte de cassure structurelle dû au péché originel, et le Christ vient réparer par l'offrande de lui-même, redonner au Père, mais ce qui veut dire aussi que de notre salut dépend d'autres. C'est pas un salut personnel et portatif, c'est un salut qui est aussi en communauté avec les autres, en communion avec les autres. Enfin, je ne peux pas dire je sans dire tu, je ne peux pas dire tu sans dire nous. Donc c'est intéressant de voir que cette vie éternelle, nous sommes soucieux aussi du salut, parce que ça pose la question de l'état de la personne dans la vie éternelle, parce que ça, c'est après la mort, qu'est-ce qui se passe, c'est ça un peu la question, hein. Donc ce qu'on appelle le jugement particulier, hein. Il y a le jugement universel, où Dieu viendra juger les vivants et les morts, la fin du monde, de ce monde tel qu'il est actuellement, mais aussi particulièrement la fin de notre monde, c'est le moment où on cessera d'exister sur cette terre. Et aussi, on sera amené à rendre compte de ce que nous avons reçu. Hein, il y a beaucoup de paraboles qui parlent de ça, le fait de rendre compte et de c'est intéressant. La mort met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce. L'accueil ou le rejet de la grâce, c'est maintenant. C'est ce que dit la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Nous n'avons qu'une vie pour vivre de foi. Dans l'éternité, le fait dans l'éternité, eh bien, cette éternité-là, eh bien, on viendra, en fonction de ce que l'on aura fait, avoir une rétribution, c'est ce que dit le Nouveau Testament, par le jugement principalement, la perspective de rencontre finale avec le Christ, et donc aussi de voir en fonction de ses œuvres et de sa foi. Hein, vous pourrez vous rappeler la parabole du pauvre Lazare, vous rappelez qui est le pauvre Lazare qui est à la porte d'un riche, qui est somptueusement vêtu, qui fait des festins, etc., etc. Hein, et qui, au fond, l'a laissé dans sa misère, et quand ce riche arrivera dans le royaume, eh bien, il aura à répondre pourquoi, voilà, c'est Lazare, le pauvre Lazare lui-même qui l'accueillera. Donc, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, c'est ce qui fait que le lien avec l'autre, dans notre foi catholique, chrétienne, parce que je pense qu'on le partage avec les chrétiens, dans notre foi chrétienne, le lien avec l'autre a à voir avec l'éternité. C'est-à-dire que c'est différent de dire, par exemple, je nourris quelqu'un. Il y a des tas d'ONG qui existent pour nourrir des gens affamés, etc. Magnifique. Mais nous, quand on fait ça comme chrétiens, on donne du pain à celui qui a faim, etc. On visite le malade, c'est bon. Mais ça veut dire que pour nous, il y a quelque chose qui va avoir avec la vie éternelle, la destinée finale de cette personne. Et c'est là aussi la différence. On fait peut-être la même chose, dans les œuvres de charité, mais pas avec la même perspective. Il y a une sorte de gravité, de contact avec l'éternité quand je donne dans ma propre foi, au nom du Christ, à manger à celui qui a faim. Celui qui n'a pas la foi, il le fait avec sa bonne volonté, parce qu'il y a quelque chose aussi d'humain, d'empathique, de secourir le prochain qui est dans la difficulté. Il y a quelque chose d'empathique, ça c'est vrai. Et on encourage, très bien. Mais nous, ce qu'on porte dans cet acte-là, a à voir avec l'éternité. De donner à manger à celui qui a faim. C'est pour ça que c'est pas pareil. L'enseignement catholique, quand il fait bien son travail, est différent de l'enseignement public. Il y a des bons et des mauvais établissements dans les deux, et les professeurs sont tout à fait donnés. C'est pas la question. C'est que quand l'enseignement catholique prend conscience de son caractère propre, c'est toute la personne jusque dans l'éternité qu'elle instruit. C'est pas juste parce qu'à Stan, ils ont des super notes d'admission à Polytechnique. Oui, c'est jusque dans l'éternité. C'est-à-dire que c'est la personne elle-même dont on prend soin, parce que cette personne-là, elle va contempler le visage de Dieu. Elle n'est pas faite pour la fosse. Oui, c'est ça la différence entre l'enseignement catholique et l'enseignement public. C'est une vision de la personne humaine. On prend soin de la personne humaine jusque dans sa destinée finale. Et vous avez, j'imagine beaucoup d'entre vous, fréquenté les établissements catholiques, ce qu'on appelle la pastorale, ou alors l'aumônerie. Il y avait des propositions qui étaient faites parce qu'il y a vraiment cette idée de dire que c'est bien d'être super en maths, d'arriver de cravacher. Très bien, mais il y a d'autres établissements publics qui font ça très bien aussi. Mais nous, ce qu'on propose, le propre, c'est de dire tiens, c'est la personne dans sa globalité, dans sa vocation à contempler la face de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est une dimension contemplative. On est agi par Dieu. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que notre vie consistera à contempler le Seigneur et à nous réjouir de cette contemplation, à l'aimer et à le connaître et à nous rassasier indéfiniment, puisqu'il est Dieu, il est éternel et infini. Voilà, c'est indéfiniment une béatitude. C'est vraiment très puissant de dire justement qu'après la mort, alors sur cette terre, il y a un enjeu. Si vous voulez, il y a une sorte de... La manière de voir le temps, par exemple, en fonction de la vie éternelle, est tout à fait différente. Ah ben oui, forcément. Par exemple, si vous êtes dans les sagesses asiatiques. Les sagesses asiatiques, c'est un temps circulaire. Ce qui était le cas aussi des Grecs, c'est un temps circulaire. C'est des sagesses. Attention, ce n'est pas des religions, c'est des sagesses. C'est une immanence. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'au-delà de la matière, il n'y a pas d'au-delà du réel. C'est une immanence. Je rencontre Dieu, je capte les énergies, etc. Bouddha n'est pas Dieu. Je veux dire, c'est pas comme nous, on a Jésus-Christ, et les hindous et les bouddhistes ont Bouddha. Non, et puis, c'est un temps, il y a la réincarnation. Je lisais un article justement sur la question du grand Dalai Lama. Comment est-ce qu'on va faire, parce que cet homme-là n'est pas tout de première jeunesse, mais il paraît qu'il se serait déjà réincarné, donc il faut le trouver, etc. Bon. Et puis pendant ce temps-là, c'est un peu en marge, mais du coup, comme les Chinois eux-mêmes, avec le Tibet, ils veulent aussi imposer leur grand Dalai Lama, mais qui n'est pas forcément la réincarnation. Bon, bref, ça va être un peu complexe à gérer, mais c'est pas du tout pareil que notre temps à nous. Notre temps à nous, c'est un temps qui est fléché. Il y a une densité. Il y a un début, il y a une fin. On sait que ce monde, la figure de ce monde, passera. On sait que tout va être différent. Il n'y aura plus ce monde-là tel qu'on le connaît. Ça n'existera plus. Elle passe la figure de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin. Il y a déjà notre fin à nous, ce qu'on appelle le jugement particulier. Mais il y a la fin qu'on appelle le jugement universel, la fin du monde, qui fait que quand Dieu sera tout en tous, eh bien la réalité C'est intéressant. La réalité sera complètement autre. Sera complètement autre. Et de dire, voilà, mes actes retentissent dans l'éternité. Hein, ce que je vis aujourd'hui, il y a une gravité, il y a un enjeu, tous les actes d'amour désintéressés, je les retrouverai dans le royaume. Et m'ouvriront les portes du royaume. Alors, il y a trois états dans la vie éternelle, ça c'est aussi intéressant de lire ça, donc trois états dans la vie éternelle, soit la pleine communion avec le Christ, ce qui veut dire la sainteté, et on voit que l'Église canonise, ce qui n'est pas le cas d'autres religions, hein, l'Église catholique et orthodoxe, pas les protestants, l'Église canonise, mais il n'y a aucune autre religion qui canonise, par exemple. Hein. Donc, de dire cette personne-là, elle est dans l'éternité en communion avec Dieu, en fonction du bien qu'elle a fait sur terre, etc. Donc il y a tout un process de béatification et de canonisation. Là, tout près de l'abbaye d'Ourscan, on est à Compiègne, il y a les bienheureuses carmélites de Compiègne qui ont été canonisées, hein, la célébration va avoir lieu au mois de mai. Du coup, c'est des personnes qui sont des modèles pour le croyant. Ensuite, il y a un autre état de l'âme, ce qu'on appelle le purgatoire, la question de la purification. La purification, c'est intéressant de dire, la purification, c'est qu'on voit que dans notre âme, quand elle arrive en face du Seigneur, évidemment que dans notre âme, c'est cette âme-là, ce caractère-là, c'est pas quelque chose d'autre, on va pas se réincarner dans... C'est cette personne... Il y a des scories, on n'est pas apaisé, il y a des rancœurs, nous le transporterons dans la vie éternelle. Et ça veut dire qu'on n'a qu'une vie pour vivre de foi. On n'a qu'une vie pour se convertir. Il n'y a pas de conversion, ce qu'on dit en termes un peu techniques, on dit qu'il n'y a pas d'acte méritoire dans la vie éternelle. Notre statut est fixe en fonction... de nos actes, et donc c'est intéressant de dire qu'on aura, il y a une purification de notre âme, et qu'est-ce qui nous purifie? C'est la contemplation de Dieu sans être en pleine communion avec lui, parce que notre cœur n'est pas encore prêt, et c'est l'amour qui purifie, c'est l'amour, et la sortie de cet état de purification qu'on appelle purgatoire, c'est forcément la pleine communion avec le Christ. Et le Père et l'Esprit, c'est pas, on va voir qu'est-ce qui va se passer après. Non, c'est forcément donc l'âme se purifie. C'est intéressant de travailler ça. Et on prie. Vous avez entendu parler de prier pour les âmes du purgatoire, par exemple. On prie pour demander que le Seigneur, puisse la personne puisse être purifiée pour entrer. Parce qu'il n'y a que l'amour qui rentre dans la communion avec Dieu. Forcément, c'est évident. Il n'y a que l'amour. Tout ce qui n'est pas amour dans notre cœur ne peut pas rentrer en communion. Si nous croyons que Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il y a un effet domino. Si nous croyons que Dieu est amour, par définition, il n'y a que l'amour qui rentre. Mais dans notre vie, on voit qu'il y a d'autres choses que l'amour. Il y a la rancœur, les désirs de vengeance, il y a la rancune... Il y a les différentes formes de toute puissance, de domination, etc. On voit bien qu'il y a des choses qui s'opposent. Et tout le travail du carême, c'est de mettre le doigt sur ce qui s'oppose à l'amour en nous. Et c'est ça dont on avait purifié. Mais les âmes vont ensuite vers la pleine communion. Et un troisième état, donc il y a la sainteté, le purgatoire, et ce que l'on nomme l'enfer. Mais l'enfer n'est pas hors de Dieu. L'enfer est tendu, c'est l'amour de Dieu vécu comme une souffrance. Oui, je pense qu'il faut bien, parce que parfois les artistes nous tendent des pièges, et donc on voyait donc en haut, au milieu, et puis en dessous terre, voilà, on brûle, des flammes formidables, etc. C'est l'amour de Dieu, on va vers l'amour de Dieu de toute façon. Mais l'amour de Dieu vécu pour une plénitude, une béatitude par les saints, l'amour de Dieu vécu par ceux qui sont en chemin comme une purification, mais ceux qui ont lutté leur vie durant, connaissant Dieu, connaissant l'amour de Dieu, ont lutté leur vie durant contre Dieu, c'est la prolongation assez logique. Si je connais Dieu, si je sais qu'il m'aime, mais que je n'en veux pas, c'est le cas du démon, qui est une créature, parce qu'il y a évidemment eu aussi les anges qui ont dû se prononcer par rapport à leur statut définitif. Mais il faut, vous voyez, c'est pas juste, comment vous dire, c'est pas juste une distraction dans la prière, c'est pas juste je pense pas à Dieu, la volonté qui connaît Dieu, qui sait qu'elle est aimée et qui n'en veut pas. L'endurcissement du cœur. Pour X raisons, mais alors pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et c'est vrai que c'est pour ça que l'Église ne fait pas une liste des damnés. Autant il y a des canonisations, autant il n'y a pas de damnation célébrée. Parce que l'Église ne fait pas de liste de damnés. Mais nous croyons que c'est, l'enfer est une possibilité. C'est une possibilité. Qui y a dans ce statut-là de l'âme? Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Parce qu'au fond, quelque part, l'existence de l'enfer, ça réaffirme le libre arbitre. C'est une miséricorde. Parce que tout un temps, on parlait de l'enfer, etc. Maintenant, on n'en parle plus parce que c'est pas entre guillemets vendeur. Non, ça fait partie de la foi. On le trouve dans les évangiles, on le trouve évidemment dans l'Ancien Testament aussi. L'existence de pouvoir rejeter Dieu, c'est ce qui nous réaffirme que nous sommes créatures à son image et ressemblance avec un libre arbitre. Avec un libre arbitre. Donc ça a vraiment... Vous voyez, il y a tellement de choses qui sont derrière, qui sont... Alors, nous-mêmes, nous avons cette réalité qui fait que nous pensons que c'est la plénitude qui nous attend, en tout cas nous prions. Alors ceux qui sont, la question qui s'est posée à travers les siècles, mais quelqu'un qui n'est pas baptisé, quid de son salut éternel, puisque c'est la communion avec le Christ, et la communion avec le Christ, c'est par le baptême qu'on l'obtient. Et donc, il y a eu plusieurs évolutions de ce côté-là. Le Christ n'a rien dit là-dessus, mais c'est l'Église, dans la tradition, que ça a évolué. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est si la personne a vécu selon sa conscience. Parce que la conscience, c'est la présence de Dieu dans la personne humaine. Nous sommes tous à son image et ressemblance. Et donc ça veut dire que nous avons une capacité d'aimer, une capacité de connaître. Si en conscience, nous avons fait des actes, et c'est là où la conscience doit être éclairée, si en conscience, bien, nous pensons qu'une personne qui a fait le bien, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa tradition, en conscience, nous pensons qu'elle sera amenée à répondre aussi de ses actes. Voilà, donc je pense que c'est intéressant, c'est de dire que le Christ rassemble, à travers cette réalité, de personnes non baptisées, ou tous ceux qui sont morts avant le Christ. Je m'appelle à la descente aux enfers. Vous faites bien la différence entre descente aux enfers et descente en enfer. C'est pas pareil. La descente aux enfers, c'est le séjour des morts, le Sheol, comme on dit dans l'Ancien Testament. Donc le Christ a visité spirituellement pour tous ceux qui étaient et tous ceux qui ont fait le bien ressuscitent pour la vie éternelle, et ceux qui ont au contraire nié Dieu, etc. Voilà, on le sort dont j'ai parlé tout à l'heure, et d'autres sont. Donc il y a un réveil de toute l'humanité. Le Christ rassemble l'humanité entière pour la conduire vers le Père. Donc c'est intéressant de dire, mais ça, il y a eu la question aussi des enfants non baptisés, par exemple. Décès des enfants non baptisés. Et ce qui a donné lieu. Parce que c'est normal, les choses évoluent dans la manière. La vie éternelle, je veux dire, c'est quand même. On n'a pas des infos toutes les semaines, je veux dire. Donc du coup, ça chemine. Hein, et par exemple, c'est très beau de voir que des personnes, et quand vous avez, des parents connaissent ce drame et auraient voulu baptiser leur enfant, il y a ce qu'on appelle le baptême de désir. Le baptême de désir, c'est-à-dire que c'est au regard de l'Église, c'est cet enfant-là qui est mort-né, par exemple, ou né et décédé, mais sans pouvoir être baptisé, sachant que, petite info, tout le monde peut baptiser. Il ne faut pas être baptisé pour baptiser. Tout le monde peut baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut de l'eau. Et dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous savez que la personne veut, et par exemple, je me rappelle comme ça, ma nièce qui a dramatiquement perdu sa petite fille, etc., elle a demandé au médecin, etc., de baptiser, parce qu'elle n'avait pas accès à. Voilà, donc, et de la baptiser. Elle ne pouvait pas accéder pour des raisons d'hygiène, de stérilité. Bon, tout ça est très encadré, évidemment. Mais est-ce que vous pouvez la baptiser? Alors, elle était un petit peu saisie. Vous savez, moi, il faut juste dire, voilà, je te baptise au nom du Père, du Fils, en versant de l'eau sur la tête, c'est tout le point. Parce qu'il y a une réanimation, voilà, pour moi, toute une complication. À un moment donné, il faut enlever. C'est pour ça qu'on ne parlera pas du moment de la mort, mais qui est un sujet en lui-même. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, toute personne qui veut, vous pouvez baptiser ou demander qu'on baptise votre enfant. Mais même si vous ne trouvez personne pour baptiser, pour X, vous êtes dans le désert le plus complet, etc., et vous voulez être baptisé, il se rappelle le baptême de désir. Le baptême de désir, c'est le fait de désirer être baptisé. L'Église considère qu'il y a déjà eu baptême. Et puis, il y a un autre baptême aussi qu'on vécu, c'est le martyr. Le martyr, des personnes non baptisées, parce qu'ils ont découvert Jésus, eh bien, se tournent vers lui et offrent leur vie. On considère qu'ils ont le statut de baptisés. Donc, et pour être saint, pour être canonisable, il faut être baptisé. C'est un peu la base, quoi. C'est la porte d'entrée, quoi. Donc voilà. Donc c'est intéressant de travailler là-dessus et de dire, tiens, voilà, comment cette vie éternelle, ces cieux nouveaux, viennent au fond éclairer. Notre vie et vient aussi nous redonner une autre manière d'envisager événements et personnes, réveille notre désir et nous rappelle l'importance de la miséricorde. Hein, vous vous rappelez cette fameuse phrase du curé Lars qu'on nomme une personne qui s'est suicidée, etc., dans se jetant du haut d'un pont et puis. Pendant des tas d'années, les personnes suicidées ne pouvaient pas être enterrées à l'église. Hein, donc, il n'y avait pas de. Donc, aussi, la pastorale, là, on parle de pastorale, d'accueil, voilà, donc, ne pouvaient pas être enterrées à l'église, etc. Donc, et la femme est pleurée, mais, pensant, s'adresse au curé d'Ars, mais quid du salut de mon mari? Et lui, il dit, entre le pont et l'eau, il y a la miséricorde. Entre le pont et l'eau, il y a la miséricorde. Des phrases de saints. Les saints ont la juste vision. Vous voyez, je trouve ça très beau. C'est une miséricorde qui met un terme au mal. Hein. C'est important. La miséricorde n'est pas un encouragement au mal. La miséricorde est de mettre un terme jusque-là. Le mal, tu n'iras pas plus loin. C'est ça la miséricorde. Tu n'iras pas plus loin. Parce que le Christ est celui qui vient planifier dans l'amour du Père toute la création. Donc je trouve que c'est très beau de dire, voilà, de se rappeler nous-mêmes où est-ce qu'on en est de cet accueil de la miséricorde, cette miséricorde que l'on est amené à recevoir durant le carême, que l'on est amené à recevoir aussi dans notre vie ici-bas. Est-ce qu'on accueille la miséricorde? La question de la confession. C'est intéressant de la confession. Alors, la confession, et vous avez la chance, vous qui habitez Paris, vous avez Saint-Louis-d'Antin, où il y a des confessions en permanence, je pense que c'est pas très loin d'ici, j'ai l'impression, où il y a en permanence des confesseurs possibles. Là. La confession, c'est on vient confier au Seigneur son combat. J'aime bien cette phrase de Saint-Benoît, fracasser la tentation contre le Christ. Parce qu'on se dit, mais mon père, je confesse toujours la même chose. Alors, d'abord, on ne vous demande pas de faire dans l'originalité. Attends, c'est mon père là, attention. Vous n'allez pas vous ennuyer cette fois-ci. Hein. Là, cette fois-ci, là, ça va être du lourd. Là, regardez, etc. Non, on vous demande pas de faire ça. C'est vrai qu'on a un peu toujours les mêmes choses, le pareil, le ceci, le cela. Bon, il peut y avoir des moments un peu plus difficiles dans la vie où on a le violent. Bon. Mais on fracasse la tentation contre le Christ. Je pense que c'est on vient confier au Seigneur notre combat. C'est pas magique la confession. Notre combat qu'on retrouvera à la sortie du confessionnal. Mais on se brosse bien les dents plusieurs fois par jour, on prend sa douche tous les jours, on a l'hygiène du corps, évidemment, la confession, c'est l'hygiène de l'âme. Donc je pense que c'est intéressant d'être attentif à ça, de dire la présence de la vie éternelle, de dire qu'il n'y a que cette vie pour vivre de foi, que cette vie pour accueillir cette miséricorde volontairement. Dans la vie éternelle, on est agi par Dieu, on est porté par le Seigneur, on est... Vous voyez, c'est complètement différent. Le statut de notre âme est fixé. Hein, parce que vous avez cette vie pour se prendre conscience, hein, de se réveiller. Hein, se réveiller, réveiller justement et prendre conscience combien notre vie elle a une densité. D'où la manière de concevoir le temps. C'est un temps qui a une densité, vous voyez, c'est un temps, c'est ce qu'appelle le... Vous savez, il y a deux manières en grec de dire temps, il y a le chronos, le chronomètre, etc., le temps de la montre, et il y a le kairos. Le kairos, c'est le temps de la grâce. C'est intéressant de dire ça, tiens. Le kairos, la manière de voir le temps, et demander au Seigneur de voir ce temps-là, qui est un temps de conversion, un temps où... de voir qu'il y a un combat spirituel en nous, il y a un combat intérieur, précisément pour accueillir la miséricorde, pour s'accueillir dans la fragilité et de reprendre conscience. Alors, cet accueil de la miséricorde, il est central, parce que sinon, s'il ne s'agit pas d'avoir une peur de Dieu, ni de la vie éternelle, parce que ça, c'est pas dans cette perspective que l'Église voit la vie après la mort. Vous voyez, c'est vraiment dans l'accueil de la miséricorde de Dieu. Mais j'ai une responsabilité, je peux ouvrir des portes à la miséricorde. Hein. Pape Jean-Paul II avait beaucoup d'attention par rapport à cette miséricorde de Dieu. Hein. Donc, avec Sœur Faustine, hein, vous connaissez certainement, voilà, Kowalska, donc, qui et du coup, le deuxième dimanche de Pâques, de mémoire, c'est le dimanche de la miséricorde. Donc, c'est parce que notre monde a besoin de ce pardon du Seigneur. Mais pardon que l'on se donne ici, hein, si vous ne pardonnez pas vos fautes, etc., votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Vous vous rappelez, on l'a lu hier, hein, à ceux qui lisent la lecture de l'Évangile tous les jours. Voilà. Oui, parce qu'il y a un enjeu dans le pardon. Pardon qui, vous voyez, n'est pas réconciliation, c'est pas pareil. C'est que, est-ce que mon cœur est apaisé? Est-ce que j'arrive à un apaisement face aux blessures? Ce monde, voilà, c'est une vallée de larmes, ce monde, évidemment. Évidemment. Les journaux aujourd'hui, telle ou telle chose, est-ce qu'il y a 100 ans, c'était plus simple? Certainement pas. C'est une vallée de larmes, hein, comme on dit dans le Salve Regina. Mais elle passe la figure de ce monde. On est appelé à... dans cette vallée de larmes, à construire un monde plus fraternel, plus lumineux, hein, parce que le chrétien en a la responsabilité. Il n'en a pas l'exclusivité, mais il en a la responsabilité. Celui qui est disciple de Jésus, parce qu'il sait qu'il y a une connexion entre cette réalité-là et la vie éternelle. Et ce qui fait aussi qu'on prie pour nos défunts. Je ne sais pas si vous avez eu des deuils, par exemple, dans vos familles. Souvent les grands-parents, mais parfois il y a des deuils qui sont beaucoup plus traumatisants, des amis, de cousins, cousines, etc., de personnes qu'on a connues et qui, dans des circonstances souvent tragiques, accidents ou maladies, de vos âges, par exemple, ou de vos propres parents, nous croyons qu'il y a un lien avec les défunts. Nous croyons que c'est important qu'ils interviennent aussi en notre faveur. Hein, vous vous rappelez la petite Thérèse, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est la petite théâtre, cette phrase-là, on la connaît bien. C'est que les, nous croyons qu'il y a une connexion, qui est dans la foi. Petit rappel, dans la foi, c'est pas... comment on appelle ça? Les états modifiés de la conscience. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a un accident et qui rentre dans le... dans un tunnel, il voit une lumière, c'est très bien, mais c'est pas une expérience de foi. Comment on appelle ça? On appelle ça comme ça, non? Expérience de mort imminente. Très bien. C'est vrai que j'ai vu avoir un documentaire, etc. Expérience de mort imminente, et qui sont assez qui sont assez semblables, en tout cas dans les témoignages. Mais ça, c'est pas une expérience de la vie éternelle, parce que c'est pas une mort. Mais ce n'est pas une expérience de foi. Oui, ou alors, là on rentre dans autre chose complètement, les médiums, tous ceux qui veulent vous mettre en contact avec l'au-delà, etc., c'est tout un business formidable. Hein, j'avais fait tout ce qui est cartomancie, c'est des millions et des millions d'euros. Hein, si j'avais su, je me serais reconverti dans autre chose, j'en sais rien. Bref, toujours est-il que, c'est parce que les gens ont soif de contact avec les défunts. Nous nous offrons un contact avec les défunts dans la foi. Nous prions, nous offrons des messes, etc. Mais c'est dans la foi. Et donc soyez très attentifs à ne pas tomber parfois dans le désespoir dans lequel on est. On tombe dans un désir d'avoir un contact avec l'être cher disparu. Avec nos chers disparus, on veut avoir un contact avec eux, etc. Et voilà, donc je pense que c'est important d'être attentif à ça, d'être attentif à cette réalité. Hein, donc je trouve que c'est très beau de parler de la vie éternelle, justement. C'est très beau parce que ça veut dire beaucoup de choses aussi. Où est-ce qu'on en est de l'accueil de la limite? Parce que la mort, c'est une fameuse limite. Où est-ce qu'on a... Notre vie, elle sera limitée. Elle a un début, elle aura une fin. La fin de notre monde. Hein, la fin, donc... et puis, où est-ce qu'on en est dans le lien avec les chers disparus, nos frères défunts, pour lesquels on prie dans toute chaque messe. Hein, nous croyons que nous sommes entourés aussi par la présence des défunts, maintenant, nous sommes en lien avec eux, mais dans la foi, sans chercher à vouloir avoir des contacts comme ça, un peu paranormaux. Alors là, non, ça c'est non, 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 ça c'est non, mais voilà, donc c'est, je crois que c'est important ça, la question des défunts, on en parle aussi assez peu. Et de fait, de voir comment on passe dans nos... Moi, j'ai vécu en Argentine, etc. On célèbre la mort. Dans les pays plus pauvres, on célèbre la mort. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où on veille les morts. Moi, j'invite beaucoup, par exemple, à ce que les personnes ramènent à leur domicile le cher disparu, celui qui est décédé, et qu'on veille dans une chambre, etc., et qu'on puisse aller prier, qu'on puisse... Voilà, aujourd'hui on voit bien que ça. On ne veut surtout pas parler de la mort. Hein. Donc on va très vite, très vite, très vite, hop, 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 ensuite c'est le funérarium et encore, et le cercueil, parce que ça pourquoi? Parce que ça rappelle notre finitude. Ça rappelle notre finitude, ça rappelle que tous nous serons confrontés. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire, mes amis, ce soir. Des choses que vous savez, hein, je pas du tout la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais je trouve ça intéressant d'être attentif à ça, de cette vie éternelle qui a des conséquences, comme on l'a vu, assez concrètes dans notre quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ben déjà, on prie qu'ils sont déjà avec le Seigneur, tu veux dire, qu'ils sont en communion plénière. Alors, on prie pour qu'ils prient pour nous. On les invoque. on les invoque. Si on pense qu'une personne a fait le bien sur cette terre et que, bon, maintenant, on ne sait jamais l'état de l'âme d'une personne, tant que, mais c'est sûr, on ne va pas prier pour le salut de Mère Teresa, parce que Mère Teresa a été canonisée, donc l'Église a reconnu officiellement une plénitude de communion. En revanche, on va lui demander de prier, elle, pour nous. Je pense que c'est elle pour nous. Voilà, c'est les défunts. Mais il y a des tas de gens, on ne sait pas du tout. Hein. Il y a des personnes pour qui personne ne prie aussi. Pour qui personne ne prie. Donc, les défunts, c'est donc, où que tu sois, voilà, et si tu es dans la pleine communion avec Dieu, ben, viens me soutenir, donne les anges gardiens, etc. Je pense que c'est important, ça. Hein, c'est ce monde invisible. Mais ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il est irréel. C'est l'inverse. Les premiers chrétiens étaient des néoplatoniciens, vous savez, le monde des idées, vous avez appelé ça. Mais c'est le vrai monde. Donc c'est vers là où on va. Une autre question? Oui. Est-ce que ce serait tomber en dépression, c'est ça? J'ai rien compris, c'est pas si on a pas de micro. Et quoi? Ah, est-ce que les saints seraient une forme de... Non, parce que les saints... Alors, déjà, les saints sont des pécheurs. Les saints sont des pécheurs. Donc c'est important, les saints se confessent. Donc ils savent quand même, ils savent qu'en eux-mêmes aussi il y a des conflits, etc. Bon, je trouve que non, les saints ne sont pas une exception à ça. Non, ils sont marqués aussi par le péché. Hein, il y a dans notre tradition uniquement deux personnes qui n'ont pas été marquées par le péché, c'est la Vierge Marie et Jésus, mais tout le restant de l'humanité est marqué par le péché, nous croyons. C'est notre foi, et je vais dire, il n'y a qu'à nous regarder nous-mêmes, même des saints. Par exemple, on rappelle de saints qui avaient des très gros défauts. Par exemple, Saint Jérôme, il était très colérique, etc. Mais pas pour ça qu'on ne va pas le prier. Mais bon, voilà, et peut-être il doit demander pardon. Et on disait aussi, ben, c'est Saint Paul, une aiguille, comment on dit ça, me traverse la chair, etc. Voilà. Bon, on se disait, est-ce qu'il y a une mal à vivre le célibat? Voilà, c'est un peu autour de ça. C'est bon. Bon, ils avaient des combats. Mais c'est très rassurant. C'est pas une impeccabilité. C'est pas une impeccabilité dans un monde de brutes. C'est des gens qui ont aussi un combat comme d'autres. Hein, donc, mais c'est vrai que c'est pas facile de renoncer au paradis terrestre. C'est de dire que ce monde-là ne sera jamais sous cette forme-là, dans une plénitude, dans une abondance, dans une communion. Oui, d'autres questions? Mes amis, sur ces bonnes paroles, je crois que nous avons d'autres paroles qui nous attendent.